16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Un peu, beaucoup, voire, Mathieu, à la folie. Mmh. C'est le cas de Jocelyne Wildenstein, dite la femme chat.
Oui, alors on peut, comme moi, aimer les chats, comme Pouls aimer les femmes, ou comme David aimer les deux. Il est en revanche plus difficile, à moins d'être un grand fan du cubisme, d'apprécier sur le plan esthétique celle qu'on surnomme la femme chat.
Oh là 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 là.
Effectivement, oh là 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 est la première réaction naturelle pour qui découvre une photo de Jocelyne Wildenstein. Et ce que vous allez faire tout de suite en tapant son nom dans Google Images, car je vous connais, c'est humain, vous avez envie de découvrir de vos yeux l'ampleur de la catastrophe. Oui, on aime ça, les catastrophes. Il y a une partie de nous, tout au fond, qui adore constater les dégâts que peuvent causer la chirurgie esthétique sur un visage humain. Alors, assumons ce voyeurisme sadique, faisons comme quand il y a un accident de voiture, vous savez, sur l'autoroute et qu'on tourne un peu la tête pour voir si des fois on n'apercevrait pas un bout de bras ou une jambe désarticulée.
Mmh.
Oui, ça serait bon, Stéphane. Alors,
ça fait
ralentissons.
Des embouteillages de l'autre côté de la voie.
Et des suraccidents. Penchons-nous sur le destin de cette femme qui, pour ceux qui n'ont pas leur téléphone sous la main, est une sorte d'hybridation maléfique entre Régine, Grishka Bogdanov et Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. Mmh. Visuellement, on est entre Robocop et les Aristochats. C'est violent, pourtant Jocelyne, icône un peu pathétique de la jet-set new-yorkaise, n'a pas toujours ressemblé à ça. Sa vie démarre au contraire dans la simplicité de la campagne suisse romande. Jocelyne Périsset, son nom de jeune fille, est née donc en Suisse, à Lausanne, en 1945. Famille modeste, un père qui travaille dans un magasin d'articles de sport, la petite Jocelyne est une très belle femme et rapidement, elle se lasse des rejetis. Elle s'amourache d'un producteur de cinéma qu'elle suit à Paris, elle a 17 ans. « Ma vie a changé à ce moment-là », dit-elle. « Lausanne était ennuyeuse. À Paris, j'ai commencé à rencontrer des gens glamour et passionnants. » C'est là, Stéphane, qu'elle découvre sa vocation. Pour certains, c'est la médecine, pour d'autres, le journalisme, pour d'autres encore, la musique. Jocelyne, elle, décide de mobiliser toute son énergie au service d'un but ultime, réussir à ne jamais rien glander de toute sa vie. Pas le moindre dug à la fac, pas le moindre petit boulot. Pourquoi risquer de se froisser un neurone alors qu'il suffit de se faire entretenir par ces généreux mécènes de chair fraîche qu'on appelle les milliardaires. Jocelyne adore les milliardaires. Rapport à l'argent, ça l'arrange. À 20 ans, elle se met à fréquenter le cinéaste Sergio Gobbi. Grâce à lui, elle passe beaucoup de temps à explorer l'Afrique, un continent dont elle tombe amoureuse, figurez-vous. Oui, un pays dont elle se forgera une vision pas du tout caricaturale ou colonialiste. L'Afrique est un paradis, dit-elle rieuse, à l'époque où elle pouvait encore rire, bien sûr. C'est plus possible aujourd'hui. Vous rencontrez des gens qui regardent la vie différemment. Ils adorent l'aventure. Eh oui, un peu comme dans Tintin au Congo. L'Africain rit beaucoup et aime emmener le blanc en safari, c'est son plaisir. Sur place, Jocelyne rencontre Alec Wildenstein, un éleveur de chevaux, marchand d'art, milliardaire. Alec, passionné par les félins, se prépare à partir à la chasse au lion. Jocelyne, qui, il faut le préciser à ce stade du récit, n'est pas et ne sera jamais au courant des idées antispécistes développées par Émeric Caron, décide gaiement de se joindre à Alec pour chasser le lion. Et vas-y que ça défouraille dans la savane à tout va. Tant pis si en plus du lion, un pisteur kényan perd la vie. Ça fait partie des risques du métier de rabatteur. Le soir venu, Jocelyne et Alec, ivres d'adrénaline, se galochent allègrement pendant que ce qui reste des kényans fait rôtir le lion à la broche. À la recherche d'une manière encore plus kitsch de poursuivre cette idylle entamée lors d'une chasse au lion, Jocelyne et Alec ne voient qu'un seul truc, se marier à Las Vegas. Le 30 avril 1978, c'est chose faite. Le couple aura deux enfants, Diane et un petit garçon qu'en mémoire du rabatteur kényan buté par erreur lors de la partie de chasse, Alec décide d'appeler Moussassa. Non, je déconne, il l'appelle Alec Junior. Le couple s'installe à New York dans un grand appartement de la Olympic Tower, un building cossu de Manhattan, et alors là, c'est la grande vie. Seulement voilà, les années passent et Jocelyne, comme nous tous, ne rajeunit pas. La différence entre nous et Jocelyne, c'est qu'elle, elle ne l'accepte pas. Elle va commencer léger en découvrant ce petit produit, un chouïa plus efficace que la Nivea Q10, qu'on appelle le Botox.
Ah mais ça, j'avais bien consommé ça.
Oui, oui, oui. Voilà, bon, ça, toutes les stars s'en font injecter régulièrement. Le problème, c'est que Jocelyne y prend goût. Et à partir des années 90, Jocelyne sera comme la Tour Saint-Jacques, constamment en travaux. La racine de cette obsession, la peur de vieillir bien sûr, mais surtout de ne plus plaire à son mari Alec, l'amoureux de l'Afrique. Alors se passe dans le cerveau de Jocelyne quelque chose d'assez inouï en termes de conneries. Comme dans une chronique de Castelo Lopez, elle se dit un jour « Tiens, vu qu'Alec il adore les félins, si je me faisais refaire la tronche pour ressembler à un chat ?» Oui Jocelyne, sauf que, sauf info qu'on n'a pas, Alec ne baise pas ses chats. Hein. Alec aime les chats qui ressemblent à des chats et les humains qui ressemblent à des humains. Fatalement, le jour où après cette opération, Jocelyne fait la surprise du résultat à son mari...
Je vais enlever mon masque. Attention.
Ce dernier a la peur de sa vie et demande le divorce dans la foulée. Elle pensait qu'elle pouvait réparer son visage comme on répare un meuble, explique Alec. La peau ne fonctionne pas de cette façon, mais elle n'écoutait pas. Et non Stéphane, il faut se rendre à l'évidence, Jocelyne est un peu zinzin. D'autant qu'elle maintient très sérieusement que son visage est naturel. Et oui, elle a simplement hérité de sa grand-mère, ses yeux de chat et ses pommettes hautes. En réalité, vous en doutez, sa nouvelle tête ne doit rien à son patrimoine génétique, mais tout à deux artistes plasticiens sans scrupules, les docteurs Richard Coburn et Norman Ehrentreich, dont le chef-d'œuvre n'est pas tellement le résultat esthétique, mais la somme qu'ils ont réussi à facturer à Jocelyne, ou plutôt à son mari, 3 millions de dollars. Alors, commence ce qui ressemble à un épisode d'amour, gloire et beauté, où il n'y aurait ni amour, ni gloire, ni beauté. La procédure de divorce est lancée. Mais voilà, tout bascule le 3 septembre 1998. Jocelyne est au Kenya, dans leur ranch, où elle vit depuis plusieurs mois, quand elle flaire quelque chose de pas net. Son sixième sens félin, probablement. Trois jours plus tôt, le 31 août, Alec lui faxe une lettre bizarre lui indiquant qu'elle n'est pas autorisée à rentrer dans leur résidence de New York car il prévoit des festivités cette semaine-là. Jocelyne s'y rend quand même, et juste avant minuit, le 2 septembre, elle franchit la porte de leur hôtel particulier et surprend Alec avec une jeune top modèle russe à poil. Alors, c'était pas du tout ce que tu crois, chérie. Cette jeune femme est en train de me faire réviser mes déclinaisons. Car oui, je voulais te faire la surprise, mais tu as tout gâché. Je me lance dans l'apprentissage du cyrillique. Tes explications qui ne satisfont pas Jocelyne, d'autant qu'avant de la reconnaître, Alec a dégainé un pistolet 9 mm avec lequel il l'a tenu en joue. Choc psychologique, Jocelyne appelle les flics. Alec finira la nuit au poste, menotté, avant de retrouver sa gueule en une des tabloïdes le lendemain matin. Désormais en position de force, Jocelyne, la féline, sort les griffes et obtient une prestation compensatoire, tenez-vous bien, de 2,5 milliards de dollars et, parce que sinon c'est pas suffisant, 100 millions de dollars chaque année pendant 13 ans. Alec déclarera
« Ah, ça fait mal à... !»
Tu m'étonnes, mais il n'a pas le choix. Depuis ce divorce retentissant, Jocelyne fait profil bas, même s'il est un peu compliqué de parler de profil la concernant. Elle se montre moins souvent en public, sauf pour clamer qu'elle est ruinée, en état de banqueroute personnelle et qu'elle est désormais obligée de demander de l'aide à ses amis pour vivre. Heureusement, si Jocelyne a tout perdu jusqu'à un visage humain, il lui reste l'amour. Et oui, en la personne du fashion designer Lloyd Klein, âgé de 53 ans, un petit genou pour notre panthère sous cortisone de 80 balais, qui contre toute évidence continue de marteler qu'elle n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Bien sûr que non. Vous savez, quand on est jeune, on a une certaine fraîcheur qui s'estompe avec les années. Mais j'ai toujours les mêmes yeux, les mêmes pommettes et le même nez. J'étais juste plus jolie à l'époque. Bien sûr, Jocelyne, laissons les auditeurs jugés par eux-mêmes sur Google Images, c'est très bien fait. Il y a des photos avant-après, comme Henri Lecomte dans la pub Comme J'aime. Vous vous ferez votre avis. Et n'oubliez pas que passé un certain âge, quand votre peau perd de son élasticité, la chirurgie esthétique n'est pas la seule option. Parfois, ça peut mal tourner. On l'a vu avec Jocelyne, où il y a pire encore. J'aurais pu vous parler, par exemple, de l'opération d'augmentation pénienne que j'avais offerte à David pour ses 40 ans. Croyant bien faire, je lui avais pris l'option luxe, le modèle Rocco Siffredi, son idole. Hélas, une fois qu'on a retiré les bandages et qu'on a comparé avec le modèle...
Il y avait 36 cm de différence entre l'un et l'autre.
C'était la déception. Non, la chirurgie esthétique, c'est trop dangereux. Il y a aussi, si vous aimez la mer et les tzatziki, ce que Stéphane Bern, qui a toujours une peau de bébé, appelle la solution Paros. Vous achetez une villa là-bas, il y en a de très bien à moins de 3 millions d'euros, et ma foi...
Il y a tellement de vent que t'as l'air toujours lifté.
Oui, c'est ça la vie, avec Stéphane Bern. Un bon entendeur, Jocelyne.
Merci Mathieu. Bon, c'était à 98%.
Vous avez l'air de bien connaître cette famille.
Je connais très bien.
Et vous nous disiez que c'était un petit peu un filou, n'est-ce pas, le mari plutôt, décédé. Oui, il est parti, on peut le dire.
Il ne pouvait plus voir sa femme en peinture.
Il n'est pas le seul.
C'est ces gens qui préfèrent avoir l'air chelou qu'avoir l'air vieux, en fait.
C'est pas, on se demande ce qui se passe dans la tête des gens qui font de la chirurgie esthétique comme ça. Gonflement des lèvres, etc. On se dit, mais il n'y a personne pour leur dire « Écoute, chérie, fais pas ça, tu vas être... »
Ils sont aussi mal entourés, probablement. Ils n'ont pas d'amis sincères. Dites-moi, Stéphane, est-ce que vous l'avez vu récemment ou pas? Parce que je crois qu'elle s'est fait dégonfler un petit peu. Oui, elle a retrouvé un visage plus humain que dans les années 2010, 2011.
Non, je ne l'ai pas revu
apparemment,
depuis.
Apparemment, elle a peut-être pris conscience.
Elle est retournée en Suisse, non, chez vous?
Elle est retournée, mais elle a plus un radis.
Elle a plus un radis. Par contre, j'ai la solution pour savoir pourquoi elle a perdu tout cet argent.
Ah oui?
C'est qu'elle s'est amourachée de jeunes hommes à qui elle a payé aussi des...
Oui, mais comme je le disais, Stéphane...
De la chirurgie esthétique.
Oui, mais 2,5 milliards...
Et qui ont aspiré, vous avez...
Ça fait quand même beaucoup, quand même, 2,5 milliards en chirurgie esthétique. Oui. Ça fait beaucoup de jeunes hommes.
Oui.
Sacré cougar.
Oh.
Europe 1, historiquement vôtre.